Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Il est 8h30.
Bretagne 5 matin, l'invité politique.
Et ce matin, nous sommes au téléphone en direct avec Maxime Picard, il est conseiller régional de Bretagne, conseiller municipal de Questembert, premier secrétaire fédéral du PS du Morbihan et membre du secrétariat national du Parti Socialiste. Il est avec nous au téléphone. Bonjour.
Bonjour.
Alors, Maxime Picard, les élections municipales se profilent à l'horizon. Il y a encore un petit peu de temps, ce sera en mars 2020, mais déjà les états-majors commencent les grandes manœuvres. Comment ça se passe sur le Morbihan pour le PS?
Nous sommes dans la phase de négociation avec l'ensemble des partenaires de gauche parce que nous avons un objectif simple qui est de faire en sorte qu'il y ait une liste de gauche dans les communes et pas plusieurs et ni aucune. C'est un peu les écueils des élections municipales dans des communes de taille variable. C'est soit ne pas arriver à faire de liste, soit se retrouver avec deux, voire parfois trois, quatre listes de gauche, ce qui serait synonyme de défaite quasiment automatique. Et donc il faut faire ce travail-là au préalable pour aider nos équipes sur le terrain.
Est-ce que c'est facile de discuter avec les différents courants de la gauche? Parce que on l'a vu depuis les défaites électorales, autant à gauche qu'à droite d'ailleurs, c'est difficile de recomposer derrière. Et alors, à partir de ce moment-là, le PS étant minoritaire, est-ce que c'est facile de discuter avec d'autres courants?
Alors, ce n'est pas facile. D'abord parce que le PS part avec un passif vis-à-vis de ses partenaires. Un passif qui est double. C'est à la fois celui de l'héritage de fond de 2017, c'est-à-dire l'exercice du pouvoir entre 2012 et 2017. Et puis le deuxième sujet, c'est que nous avons été hégémoniques, c'est-à-dire que nous nous sommes mal comportés, souvent, avec nos partenaires. Et maintenant, d'une certaine manière, sans nous le faire payer, ils nous le font en tout cas savoir qu'il est bien hors de question que nous continuions à échanger sur cette base-là. Donc il faut échanger sur une base égalitaire, les yeux dans les yeux, et ça change un peu la donne. Donc c'est effectivement un nouvel exercice pour les responsables du PS, qui est plutôt sain, et qui se passe, ma foi, plutôt moins mal que ce qu'on pouvait imaginer. Moi, j'ai plutôt de bonnes relations avec les leaders des autres partis de gauche dans toute la Bretagne, et je m'en félicite.
Vous redoutiez un peu ce dialogue, vous pensiez qu'il allait être plus, vous le dites vous-même, c'est un peu moins dur que prévu, mais est-ce que vous pensiez que finalement les portes allaient se fermer?
Oui, en tout cas, une chose, c'est pas qu'elle se ferme, c'est que si nous n'avions pas un tout petit peu mis le pied dans la porte, potentiellement, les gens, ils n'auraient pas particulièrement invité au repas. C'est-à-dire que les autres partis de gauche, ils pouvaient très très facilement se mettre tous d'accord entre eux en se disant, on va mettre le PS de côté et on va s'organiser sans lui. Et c'était un risque. Et donc, ce risque-là, il fallait absolument l'éviter. Et donc, il fallait ouvrir les discussions très vite. Moi, j'y ai passé une bonne partie de l'été, y compris en allant loin dans les Côtes d'Armor pour rencontrer un certain nombre de responsables. Et c'est vrai que du coup, maintenant, on n'est plus dans cette situation, mais ça aurait pu, ce qui prouve bien qu'il y avait du travail.
Est-ce qu'il fallait véritablement relancer des idées de gauche pour la France à un moment où La République En Marche prend beaucoup de place? Est-ce que c'était essentiel pour vous?
Ben oui, parce que l'offre politique de La République En Marche, elle s'est clarifiée depuis 2017. Et maintenant, on se rend bien compte que c'est une offre de droite, et assez classique, de droite libérale. Et en réalité, on a devant nous trois droites, une droite libérale, une droite conservatrice et une droite réactionnaire, l'extrême droite. Mmh. Et donc, si sans offre de gauche en face, on se retrouve avec un débat qui ressemble quand même à un débat tout à fait tronqué entre des forces qui sont quand même pas des forces qui représentent le progrès. Voilà, donc il fallait absolument reconstituer un camp politique, quel camp de la gauche, et qui me paraît quand même être celui de beaucoup de Français et beaucoup de Bretons. Donc il y a du boulot, mais c'est ça l'axe de travail.
Mmh. Alors, au niveau local, au niveau du Morbihan, il y a deux grandes places fortes, Lorient et Vannes. Lorient, terre socialiste quand même, par tradition. Oui. Vannes, c'est peut-être un peu plus difficile. Est-ce que vous rêvez d'un doublé?
Moi, je ne rêve de rien, si vous voulez. Je suis concret. Nous avons des chances dans les 2000, pour des raisons différentes. À Lorient, parce qu'effectivement il y a un héritage qui est fort, il y a 50 ans d'exercice du pouvoir par des socialistes, et à Vannes parce que l'embouteillage au centre droit fait que la gauche rassemblée peut s'imposer. Et donc pour ces deux raisons, il y a une chance de victoire. Elle n'est pas extraordinairement élevée, mais elle est réelle. Et donc il faut faire en sorte de mettre tous les atouts de son côté pour essayer de gagner dans les deux villes. Alors, gagner les deux d'un coup, ça, moi je signe évidemment, vous imaginez bien tout de suite, mais je rappelle qu'à Vannes, à l'inverse de Lorient, ça fait près d'un siècle que la ville n'a pas basculé à gauche. Donc, il faut aussi être modeste devant ces enjeux-là.
Mais néanmoins, vous pourriez créer la surprise.
Oui, d'abord on a un bon candidat à Vannes, hein, Simon Huznat, qui emmène la gauche, qui a créé un certain nombre de dynamiques autour de lui. Et donc de son côté, les choses sont au carré, les choses sont moins au carré au sein de l'ancienne et l'actuelle majorité municipale, puisque en son sein se crée une division, et c'est ce qui fait que la course est intéressante et que nous sommes dans un combat qui va être serré. Et quand c'est serré, ça veut dire que vraiment ça peut se jouer dans la campagne elle-même. Donc il faut vraiment qu'on réussisse la campagne et que on utilise et qu'on convainque les Vannetais de la qualité de notre projet et d'une certaine manière de l'essoufflement du projet actuel qui est aujourd'hui au pouvoir dans la ville.
Alors, souvent on dit que les élections municipales, Maxime Picard, sont un peu décorrélées de la politique nationale. Or, on voit cette année, en tout cas l'année qui vient, pour ces élections 2020, que ce ne sera pas forcément le cas. Il y a une forte grogne sociale, il y a toujours et encore les gilets jaunes qui sont là, présents dans le débat. Est-ce que ça peut jouer sur des élections, en particulier dans les grandes villes ?
Alors, ça va jouer. Alors, par contre, effectivement, moi, je suis secrétaire national au PS sur les questions d'études électorales, donc je lis tous les sondages et enquêtes d'opinion. On voit bien que ce qui fait quand même voter aux élections municipales, ça reste des enjeux extrêmement locaux pour la plupart des citoyens. Ceci étant, plus la ville est grande, plus on a un impact national. Et le contexte qu'impose, y compris la République en marche, à la fois sur le fond, et eux-mêmes nous disent qu'ils veulent nationaliser cette campagne municipale parce qu'ils en font un enjeu pour avoir des élus locaux, pour implanter des potentiels parlementaires, y compris pour gagner des sièges de sénateurs. Donc eux-mêmes assument ça. Donc du coup, ça va avoir forcément un effet. Moi, je ne vois pas comment, si la rentrée sociale est difficile, si la réforme des retraites telle que finalisée crée beaucoup d'émoi chez les Français, je ne vois pas comment ça peut bénéficier à des candidats de ce camp politique. Et donc, ça sera évidemment un des éléments, mais pas le seul. On voit bien que le sujet, malgré tout, central, c'est la capacité à prendre le virage écologique dans les collectivités comme au niveau national. Et ceux qui seront en capacité de présenter un projet qui effectivement organise ce virage écologique sans broyer les citoyens, et bien c'est ceux qui seront en situation, à mon avis, de remporter les élections.
Alors, vous parlez du virage écologique. On a vu lors des dernières élections, les élections européennes, les Verts ont fait une percée importante. Il y a une réelle attente sur le climat, une réelle peur aussi. On voit l'apparition de ces rapports, le rapport du GIEC par exemple, qui est quand même assez anxiogène. Est-ce que le PS va se verdir un petit peu, si j'ose m'exprimer ainsi?
Mais oui, mais on peut s'exprimer ainsi. Moi, quand je regarde, d'abord, c'est ce que nous faisons depuis 2 ans, parce que nous avons parfaitement intégré, depuis le dernier congrès en tout cas, parfaitement intégré que nous avons du retard sur ce sujet, nous socialistes, parce que nous venons d'une tradition qui est une tradition liée au travail et donc une forme de productivisme, il faut l'assumer. Donc il faut qu'on réécrive ce qu'est la social-démocratie confrontée à ça. Et à l'échelle municipale, ben moi, quand je lis, y compris en Bretagne, ce que dit ou ce qu'écrit par exemple Marc-Hervé Arène sur la ville lente, je trouve que là, on a déjà des choses extrêmement puissantes sur notre capacité à prendre ce tournant-là. Et donc, dans les projets municipaux, il est essentiel de retrouver ça. Il se trouve que on peut travailler sur des territoires à énergie positive. On peut travailler sur des tas de sujets de ce type-là, les cantines, évidemment, tous les sujets autour des cantines et la restauration scolaire. Donc, il y a des manières de montrer. Très simple, très opérationnel, dans les projets municipaux, qu'on peut être force de proposition. Et au-delà de ça, au-delà des socialistes, je pense qu'il faut que nous réfléchissions tous ensemble. Je ne sais pas ce que vous a raconté, parce que je ne l'ai pas écouté, René Loy hier, mais je suppose qu'il vous a parlé d'Erdeven et de la capacité à travailler collectivement.
Et tout à fait. René Loy était notre invité hier et on a évoqué ce rassemblement d'Erdeven.
Évidemment, et moi je serai à la conférence de presse de lancement de ce moment-là, parce que je pense que nous sommes encore plus pertinents quand nous réfléchissons tous ensemble et que nous sommes capables de porter des propositions partagées. Les socialistes, ils sont capables de partager des convictions avec des écologistes et de porter une proposition, une simple, devant les Bretons. Et l'objectif de Erdogan, c'est exactement ça, c'est de produire des propositions simples en vue des municipales.
Justement, alors, on parle d'écologie, il y a grande urgence, hein, évidemment, ça n'aura échappé à personne. Et puis, il y a un autre sujet, c'est aussi l'immigration et l'insécurité. Souvent, ils sont mis en perspective, pas forcément de façon toujours facile, parce que, voilà, on fait souvent des amalgames, mais l'immigration aujourd'hui, c'est un sujet qui va devenir aussi prégnant, parce qu'il y aura des migrations climatiques. Est-ce que le PS réfléchit déjà sur ces grands sujets de société ?
Alors, il y réfléchit d'autant plus que c'était le sujet unique de notre dernier bureau national. Mmh. Nous recevions notamment Pascal Brice, qui est l'ancien directeur de l'OFPRA et qui était venu en Bretagne pendant cet été, que j'étais allé écouter à Saint-Malieu, dans les Côtes d'Armor. Et ce que nous disons est simple, c'est que à ce stade, notamment la question des migrants, telle que nous la traitons, telle que l'État la traite, ça crée de l'insécurité telle que c'est traité, alors que ça ne devrait pas en traiter, en poser de problème. C'est-à-dire que si on traitait généreusement, sérieusement le sujet, ça ne créerait pas de trouble. Et ce qui crée un trouble, c'est de la manière dont l'État français aujourd'hui traite cette question-là. Et ça, rien que régler ça, c'est déjà réglé une part importante du problème, parce que d'une certaine manière, on casse la dimension anxiogène sur laquelle beaucoup surfent. Mmh. Mais la réalité, c'est que faire preuve d'humanité et de capacité, de générosité dans l'accueil des migrants, ceux qui sont en situation de sauvetage d'abord de leur propre vie, et puis ensuite se poser la question est-ce qu'ils peuvent ou pas rester sur le territoire en remplissant les critères tels que là, pour le coup, la loi le prévoit. Eh bien là, nous avons des choses simples à faire. Mmh. Il faut appliquer la loi telle qu'elle est et être généreux dans les principes. Et quand nous faisons ça, nous éliminons quand même beaucoup des fantasmes, beaucoup des peurs, et surtout nous évitons de laisser des migrants dans les rues tard le soir traîner parce que personne ne les prend en charge, etc. etc. Donc ça crée du désordre, et c'est l'État français aujourd'hui qui est responsable de ce désordre. Moi, je le dis très fermement. Une fois qu'on a dit ça, après, effectivement, il faut réfléchir aux politiques de flux migratoires, comment on les maîtrise, parce que évidemment, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi. Et puis ça se traite évidemment à un niveau européen, puisque vous voyez bien que c'est le continent européen qui est visé par les circuits de migration, c'est pas tel ou tel pays, et donc il faut qu'enfin nous nous mettions un peu d'accord sur ces questions.
Voilà, travailler à l'échelle européenne pour essayer d'harmoniser ces flux, et puis que chaque pays en prenne sa part finalement.
Oui, bien sûr, et puis qu'on ait une vision un peu, j'allais dire à long terme, parce que nous avons aussi des problèmes nous de démographie dans un certain nombre de territoires européens, avec des territoires qui se vident, il faut le dire. Et donc donc il faut avoir une stratégie qui consiste aussi à se dire comment on fait en sorte que les flux migratoires permettent de corriger à certains endroits ces désertifications qui sont mortelles pour un certain nombre de territoires. Voilà, il faut réfléchir à tout ça.
Et puis peut-être aussi barrer la route aux idées populistes, parce qu'on le voit en Europe, il y a quand même un sursaut, et pas seulement en Europe, on voit ce sursaut du populisme. C'est peut-être aussi si les partis politiques traditionnels s'emparent de ces questions parfois compliquées, complexes, clivantes, comme l'on dit, de barrer la route, au Rassemblement National, par exemple, en France.
Mais c'est bien mon propos, c'est-à-dire que je pense qu'il ne faut pas laisser de sujets comme ça, un peu en angle mort, ou qui ne seraient pas traités, parce que ça laisse libre cours à toutes les dérives et tous les discours populistes, c'est-à-dire qu'on en est même à renier l'humanité d'être humain. C'est-à-dire que d'abord, sauver des vies, ça ne devient même plus une priorité. Moi, je sais pas, mais la première chose à faire quand on est sur cette planète, c'est de sauver les êtres humains qui sont sur cette planète. Me semble-t-il que c'est la solidarité minimale. Après, on peut commencer à réfléchir. Mais si on commence pas par là, et on commence à se dire, non, celui-là, il est pas européen, il est pas citoyen européen, donc on n'a pas intérêt à le sauver, il faut le laisser citoyen en Méditerranée, c'est là où on commence à abandonner notre humanité. Et si on abandonne notre humanité, autant dire que tout est terminé. Enfin, il n'y a plus rien à faire. Donc il y a évidemment une bataille politique, mais qui n'est pas qu'une bataille effectivement portée par les humanitaires. C'est une bataille, c'est les politiques qui doivent mener et porter cette parole-là. C'est central, parce que vous avez parfaitement raison, en face, la vague populiste, elle est extrêmement puissante.
Justement, on va revenir à la ville, parce que la ville, c'est aussi les gens qui habitent, qui vivent. Est-ce qu'il va falloir traiter aussi tout ce problème de la précarité, parce qu'aujourd'hui, on voit l'énergie qui augmente, la difficulté à se loger, le mètre carré qui augmente dans beaucoup de villes. C'est valable pour le Morbihan, c'est valable aussi pour d'autres villes en Bretagne, bien sûr, d'autres coins en Bretagne. Est-ce qu'il va falloir travailler, avoir une politique de cohérence, peut-être de répartition entre ceux qui ont plus et ceux qui ont moins ?
Moi, alors, il y a deux choses. Il y a d'abord, il faut traiter la misère sociale telle quand elle est face à soi. On peut pas uniquement avoir une réponse théorique qui consiste à dire pour demain on va essayer de réduire les inégalités. Il faut avoir une réponse plus opérationnelle. Mmh. Or aujourd'hui, il y a des gens qui sont sortis des radars. Complètement des radars de la solidarité et même de la solidarité des associations, etc. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne sont plus identifiés comme étant en difficulté alors qu'ils le sont terriblement. Ça veut donc bien dire que nos politiques publiques se sont essoufflées, donc il faut inventer des choses nouvelles. Et c'est pas forcément facile, mais je pense que ça doit être un des débats des municipales. Et puis, de l'autre côté, effectivement, il y a un moment où on avait une réflexion sur l'impôt sur les sociétés. Il se trouve que l'impôt sur les sociétés en France, il a pas cessé de baisser depuis 40 ans, et on n'a toujours pas compris pourquoi. À contrario, l'exemple américain, même si Trump a fait l'inverse, il n'avait plus bougé pendant un siècle. Le taux n'avait plus bougé depuis Roosevelt, en fait. Et personne, il était largement supérieur au taux européen. Et c'est là qu'on se dit, mais on est plus libéraux que les États-Unis d'Amérique. Est-ce que ça a un sens d'être plus libéraux que les États-Unis d'Amérique? Donc moi, je lui suggère de remonter l'impôt sur les sociétés au niveau actuel. C'est-à-dire le niveau fixé par Trump aux États-Unis, qui est 19%. Vous allez voir déjà, le taux moyen, parce que le taux sur les sociétés en France, il oscille en fonction des tailles d'entreprise. Mais alignons-nous sur ce taux-là, et vous allez voir les marges de manœuvre que ça ouvre en termes de répartition, et qu'est-ce qu'on peut faire d'intéressant avec ces millions d'euros et milliards d'euros qu'on dégagerait. Donc voilà, il y a un moment où on est allé tellement à l'excès dans le libéralisme qu'on est allé plus loin que ceux qu'on pointe comme les champions du libéralisme sur notre planète. Peut-être qu'il faut faire demi-tour.
Voilà. Alors, il y a des grands sujets aussi. On pense aux transports, on pense aux autoroutes. Alors, bien, on n'en a pas, sûr. Nous, en Bretagne, pour l'instant, en tout cas, qui ont été privatisées. Est-ce qu'aujourd'hui, il faudrait revenir en arrière et puis garder une plus large part de services publics? On pense aussi, évidemment, à la santé, le malaise prégnant de l'hôpital.
Il faut d'abord arrêter le mouvement de privatisation qui est en cours. C'est le sens de la réaction un peu forte sur les aéroports de Paris et bientôt sur la Française des Jeux. Mais effectivement, il y a quand même un sujet gigantesque sur l'hôpital public. Quand on va aujourd'hui dans un service d'urgence, on est inquiet parce qu'on voit bien que les personnels sont au bout du rouleau et qu'ils font le max pour sauver les gens, mais qu'il y a un moment où ils sont à l'embouteillage de l'échec de la médecine de ville, qui sont l'endroit où on accueille toutes les situations de crise et que ce flux-là, il n'est plus du tout gérable parce qu'il n'y a plus personne, en tout cas, il n'y a pas assez de monde en face des gens et pas réparti sérieusement sur le territoire. Et donc là, tout simplement, si on veut un système de soins qui soit correct, eh bien, il faut de toute façon remettre de l'argent public dans l'hôpital public, et ce ne sont pas les cliniques privées qui vont faire ce job. Les cliniques privées, elles ne sont pas sur cette première ligne. La vie d'urgence dans les cliniques, il y en a quelques-uns, mais c'est pas leur vocation. La vocation du premier niveau de soins, ça reste les urgences des hôpitaux. Et puis par ailleurs, il n'y a plus de SAMU non plus dans les villes, parce que le SAMU, c'est quand même des médecins de ville qui viennent en appui de l'hôpital. Or, les médecins de ville ont de plus en plus de mal à dégager du temps pour être en appui de l'hôpital public. Donc là aussi, on est en train de perdre une qualité. Et tôt ou tard, on paiera la facture collectivement. C'est-à-dire que ça se traduira par une baisse de la qualité définitive des soins et ça aura un impact sur l'espérance de vie puis sur les vies de chacun. Enfin, on a des situations aujourd'hui inquiétantes. Voilà. Donc moi, ça me laisse. Je pense que ça peut pas être. C'est forcément une priorité absolue. Je ne vois pas au nom de quoi on sacrifierait l'hôpital public. J'avoue que je ne comprends pas ce que fait ce gouvernement sur ce point.
Il y a aussi les inégalités de territoire. On en a parlé récemment. Alors j'en ai parlé avec quelques candidats justement aux élections municipales. Et je vais vous prolonger la question, Maxime Picard. Aujourd'hui, on a des territoires ruraux qui se vident de leurs habitants, des villes qui reçoivent de plus en plus d'habitants. C'est pas toujours simple à gérer. Est-ce qu'on a perdu aussi cet équilibre des territoires entre le rural et l'urbain?
Alors, je sais pas si on a perdu cet équilibre, mais en tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'on n'a pas tiré les conclusions d'un certain nombre d'évolutions fortes récentes. C'est-à-dire que la métropolisation en France, et puis la géographie bretonne, qui fait que la principale métropole est aujourd'hui à 1h30 de Paris, et qui du coup, elle peut aspirer une partie de la population bretonne, ce sont des sujets qu'il faut que nous traitions. Vous savez, moi, j'habite une petite ville pauvre, de Bretagne, Questembert, qui est pas une ville qui perd des habitants, mais qui est une ville qui a du mal à jouer son rôle de point d'équilibre par rapport à une agglomération de Vannes qui, elle, a tendance à augmenter rapidement de taille. Et c'est dommage, parce que c'est exactement sa vocation de jouer son rôle de point d'équilibre. Et donc, on voit bien que ce qui marchait bien avant en Bretagne, le réseau des petites villes et des villes moyennes, c'est un peu plus dur aujourd'hui, parce qu'il y a des grands mouvements économiques, il y a des grands mouvements de population qui sont plus puissants que ça. Et donc, il y a effectivement une réflexion foncière que nous avons, qui est un des éléments du débat régional, évidemment, mais on voit bien que nos outils, l'établissement public foncier régional, etc., commence à être en difficulté par rapport à la puissance de ces évolutions. Ils corrigent beaucoup de ces écarts, mais c'est quand même un mouvement de fond qui est assez puissant, et donc il faut y veiller. Et donc, effectivement, plus les élus bretons, là je reviens à l'échelle régionale.
Je rappelle que vous êtes conseiller régional également.
Mais plus ils travaillent collégialement les uns avec les autres, plus les territoires se coordonnent entre eux et se comportent pas uniquement de manière un peu concurrentielle à dire moi je vais essayer de capter telle ou telle population, on dépend de telle autre. Mieux on se porte. Et donc quand la ville de Rennes met à disposition son Pinel pour gérer du foncier, c'est plutôt un bon signal de solidarité vis-à-vis de toute la région. Mais c'est exactement ce type de solidarité qu'il faut que nous discutions, et je pense qu'il y a des conférences régionales entre les locaux qu'il faut amener sur ces sujets-là pour prendre des décisions un peu puissantes sur la répartition du foncier constructif, ne serait-ce que ça, puisque c'est quand même un des enjeux majeurs.
Il y a l'enjeu des transports également. On va terminer là-dessus, Maxime Picard, mais les transports, aujourd'hui, on a perdu. Alors, la Bretagne a essayé de conserver ce qu'elle a pu en ferroviaire, mais c'est vrai que le ferroviaire desservait beaucoup de villes moyennes, beaucoup de lignes ont fermé, la SNCF a fermé des lignes, la région reprend quelques-unes, mais ça a un coût, évidemment. On pense à Questembert, il y a une ligne ferroviaire à Questembert.
Oui, bien sûr. Alors nous, on a une chance, c'est qu'on est sur l'axe. Alors c'est une chance, c'est aussi une difficulté. C'est qu'on est sur l'axe TGV qui emmène jusqu'à Quimper. Donc nous, la question, c'est pas le nombre de trains qui passent, c'est le nombre de trains qui s'arrêtent, ce qui est évidemment important. Et alors pour l'instant, on est plutôt dans une situation où le nombre d'arrêts augmente, ce qui est plutôt rassurant, mais c'est difficile parce que les créneaux aujourd'hui, le fonctionnement de la SNCF aujourd'hui sur les créneaux, notamment des lignes grande vitesse, ben pour les villes qui sont pas des gares TGV et qui sont sur ces axes, c'est très compliqué parce que ça bloque les créneaux les plus accessibles aux gens et les plus intéressants. Et donc il faut trouver dans les trous, dans les creux entre deux trains, les TER qu'il faut faire passer. Donc c'est un exercice extrêmement compliqué qui pour l'instant sur ces axes-là marche bien. Par contre, évidemment, ce qui est plus difficile en Bretagne, sont toutes les lignes qui ne sont pas des lignes grande vitesse et qui sont souvent en travaux parce que vieilles lignes. Je suis régulièrement interpellé sur le Auray-Quiberon, qui n'est pas un train estival. En tout cas,
voilà, le tire-bouchon pour les auditeurs.
Exactement. Mais juste pour avoir une idée en tête, c'est 1 million de kilomètres en travaux à faire. C'est-à-dire que quand il y a 15 kilomètres, il y a 15 millions à trouver. C'est le prix des lignes de chemin de fer aujourd'hui. Et donc toutes ces lignes-là qui ne sont pas les lignes grande vitesse, eh bien il faut les entretenir parce que sinon on se retrouve tôt ou tard avec des factures qui sont colossales. Et puis il faut avoir une politique attractive tarifaire, il faut que ça corresponde au déplacement des gens, il faut rabattre des gens sur les gares, c'est-à-dire qu'il faut aussi il faut construire des stratégies pour que les gens accèdent facilement aux gares en campagne, que les villes voisines, les habitants des communes voisines d'une ville qui a la chance d'avoir une gare puissent très facilement aller à cette gare pour y trouver un intérêt. Voilà, donc il y a beaucoup de choses à renforcer pour que le réseau fonctionne. Ce qui est pour l'instant positif, en tout cas, contrairement à d'autres régions, c'est que notre système, il est quand même plutôt d'abord en hausse de fréquentation globalement et du coup, ça nous donne les moyens de continuer à investir pour ces lignes-là. C'est déjà considérable, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un débat de c'est quoi la prochaine ligne à fermer, c'est plutôt comment on fait pour relancer telle ligne, comment on essaye de relancer telle autre. Voilà, c'est plutôt en ces termes-là que pour l'instant on se pose le débat, ce qui est moins catastrophique qu'ailleurs. Mais c'est aussi parce que les trains bretons sont plutôt à l'heure en moyenne.
Voilà.
C'est quand même un des sujets. Et c'est plutôt un des sujets, c'est-à-dire, les usagers, ils ont besoin de trains fiables, c'est-à-dire des trains qui sont pas en retard. Voilà. C'est un débat qui est difficile.
L'aménagement du territoire et l'aménagement des transports. Oui. Maxime Picard, on va devoir se quitter parce qu'il est déjà 8h54. Je rappelle que vous êtes conseiller régional de Bretagne, conseiller municipal de Questembert, premier secrétaire fédéral du PS du Morbihan, membre du secrétariat national du Parti Socialiste. Vous étiez en direct avec nous par téléphone ce matin. Très belle journée à vous.
Merci, au revoir.
Bretagne 5 matin. Stéphane Hamon.
Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.